Tous. Alors, qui ici s'est déjà servi d'un GPS? À main levée, qui a déjà utilisé un GPS? OK. Ensuite, qui ne s'est jamais servi d'un GPS? Alors, c'est à peu près moitié-moitié, hein? Alors, de ceux qui ont un GPS, peut-être encore on lève la main, tous ceux qui ont déjà utilisé un GPS, qui trouvent ça utile? Qui sont ceux qui n'ont jamais utilisé de GPS qui aimeraient ça en avoir un? Ah, il n'y en a pas. OK, c'est intéressant. OK, une autre question. Qui s'est déjà perdu à cause d'un GPS? Ah! Alors, les GPS sont des systèmes qui nous aident à nous rendre d'un endroit à l'autre, sont vraiment utiles, mais lorsqu'ils arrêtent de fonctionner, lorsqu'ils nous amènent à la mauvaise place, on est vraiment pris au dépourvu. Qui a encore une carte papier dans son auto? Alors, ça vaut la peine. Pour quand il n'y a plus de. Soit votre téléphone cellulaire est mort ou il vous a amené à la mauvaise place. Mais pour les directions routières, souvent on a besoin de directions. Et c'est la même chose pour le fait qu'on a besoin de directions dans la vie. On a besoin de sages conseils, des conseils fiables. Tout au long des différentes étapes de notre vie, nous faisons tous face, un jour ou l'autre, à des situations confondantes. On entend des suggestions posées, que ce soit dans les conseils généraux de la société, que ce soit des gens qui nous aiment, qui nous donnent des conseils qui parfois se contredisent. On a besoin de sagesse précise et cohérente. Le Seigneur ne nous a pas laissés sans conseil, sans sagesse. Le Seigneur nous a donné sa parole, la Bible, pour nous servir de guide, de direction. Mais lorsque nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu nous dit par elle, c'est comme essayer de se rendre à un endroit sans connaître le chemin, avec le GPS éteint, ou le GPS sur silencieux, ou un GPS dysfonctionnel. Sur vos bulletins, vous avez une image de routes qui vont dans tous les sens. Alors ça serait pas une route facile à emprunter, ça prendrait certainement un GPS pour être capable de naviguer. Mais parfois, notre vie ressemble un peu à ça. On ne sait pas par où aller, on ne sait pas dans quelle direction on doit aller, quels conseils suivre. Nous avons besoin d'être informés par quelqu'un qui sait mieux que nous. Nous avons besoin d'être informés par la Bible. La parole de Dieu nous offre les conseils dont nous avons besoin, à condition que nous les mettions en pratique. Aujourd'hui, c'est le troisième, dernier dimanche de notre série sur la Bible qui s'appelle « Le livre le plus extraordinaire » que nous faisons avec des centaines d'autres frères et sœurs à travers le Canada, partout dans notre fellowship. Pour cette série, on a eu 14 méditations quotidiennes, un livret de méditation qu'on vous a invité à traverser. Est-ce qu'il y en a qui l'ont commencé? Est-ce qu'il y en a qui l'avaient commencé, ces méditations-là? OK, est-ce qu'il y en a qui l'ont fini? Moi, je dois baisser ma main. Oh, on en a quelques-uns des braves. Félicitations que vous l'avez fini. Alors, Lisiane et moi, on est trois jours en retard. Dieu voulant, dans 3 jours, on va le finir. Mais pour cette série, notre famille d'église, le Fellowship, nous a donné ces méditations-là. Ils avaient aussi fourni au pasteur des exemples de prédications qui pourraient être prêchées. Et je me suis inspiré de celle-ci particulièrement pour les textes bibliques qu'on allait choisir. Donc, 2 Timothée 3, 14 à 17, il y a 2 semaines, le psaume 1 la semaine passée. Aujourd'hui, on est dans le psaume 119. Puis, particulièrement aujourd'hui, je me suis beaucoup inspiré de la prédication qui nous avait été donnée. Lisiane et moi, on était partis 4 jours à Toronto. Ma femme Lisiane et moi, on était partis 4 jours à Toronto. Alors, j'avais une semaine de travail à faire en 2 jours. Alors, je me suis permis de vous présenter, pas tant ou à moitié le fruit de mes réflexions, puis à moitié le fruit des réflexions du pasteur Rick Reed. Lui a été pasteur pendant 14 ans, le pasteur principal d'une grande église à Ottawa, le Metropolitan Bible Church. Et depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, il est devenu le président du séminaire qui s'appelle Heritage College and Seminary. C'est un peu comme le SEMBEC de l'Ontario, à Cambridge. Et c'est un message qu'il a intitulé dont je m'inspire beaucoup pour vous le présenter ce matin. La parole de Dieu sera-t-elle votre guide? Alors, je vous invite tout de suite à ouvrir votre Bible au psaume 119. Qu'est-ce que le psaume 119 a de particulier? Alors, j'ai entendu, il est long, oui. À quel point est-il long? C'est le plus long, exact. Le psaume 119 est le plus long de tous les psaumes et de tous les chapitres de toute la Bible. Alors, le psaume 119, avec ses 176 versets, est le plus long chapitre de la Bible et qui parle beaucoup de la parole de Dieu. Alors, ce qui est intéressant aussi, on ne le voit pas en français, mais le psaume 119 est un psaume alphabétique ou un psaume acrostiche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je me souviens quand j'étais petit, à la fête des mères, je faisais un acrostiche pour maman. Donc, pour M, j'écrivais la meilleure. Ensuite, pour A, aimable. Puis, donc, ça, c'est un acrostiche. Donc, on fait avec un mot, maman, on commence une phrase ou on donne un adjectif. Mais il y a plusieurs psaumes dans les Bibles qui sont des psaumes acrostiches, qui sont en fait l'alphabet. Ça va de A à Z, ou plutôt de Aleph à Tav, les lettres hébraïques, et les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Donc, le verset commence par la première lettre de l'alphabet. Ensuite, le deuxième verset, premier mot, commence par leur B, le bet. Et ensuite, le troisième par ce serait notre C, qui est Gimel, et jusqu'à la fin de l'alphabet. Mais ça ferait un psaume de 22 versets, comme le psaume 145. C'est un psaume de 22 versets qui est un psaume, ou 21, qui est un psaume acrostiche, comme ça, un verset par lettre de l'alphabet. Le psaume 119 est comme ça, mais à l'exponentielle. Donc, il y a huit versets qui commencent par la première lettre de l'alphabet, ensuite huit versets qui commencent par la deuxième lettre de l'alphabet, et huit versets par la troisième, et ainsi de suite. Et si vous faites le calcul, 8 fois 22, ça fait 176. Je ne pourrais pas le faire en calcul mental, mais ma calculatrice me l'a prouvé cette semaine. Alors, ça nous donne ces 176 versets. Et ce qui est fascinant à propos du psaume 119, c'est que presque tous les versets parlent de la parole de Dieu. Et le psalmiste, le poète qui a écrit ce psaume-là, est en émerveillement devant la parole de Dieu. Alors lui, il n'avait pas la Bible au complet. Peut-être qu'il ne savait même pas que le psaume qu'il était en train d'écrire était inspiré par Dieu et allait devenir une partie de la Bible. Mais qu'est-ce qu'il avait? Est-ce qu'il avait les livres de Moïse, est-ce qu'il avait un peu plus? On ne sait pas vraiment. Mais déjà, avec ce qu'il avait de la Bible, il était émerveillé des commandements, des instructions, des préceptes, des sentences, des promesses de la parole de Dieu. Et à presque chacun de ces versets-là, un de ces mots-là est utilisé pour parler comment il trouve magnifique la parole de Dieu, comment elle est digne d'être suivie. Alors, aujourd'hui, on ne va pas étudier le psaume au complet. Ça prendrait une demi-heure le lire, probablement, à voix haute. Mais on va se concentrer sur les versets 97 à 104. Dans l'alphabet, ça, c'est le paragraphe qui commence par la lettre N, Noun. Alors, ça, c'est huit versets qui commencent tous par l'équivalent hébraïque de notre lettre N. Lisons ce passage ensemble avant d'aller plus loin. Je lis le psaume 119, versets 97 à 104. Voici la parole de Dieu. Combien j'aime ta loi! Je la médite toute la journée. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tout mes maîtres, car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin, afin de me conformer à ta parole. Je ne me détourne pas de tes sentences, car c'est toi qui me les as enseignées. que tes paroles sont douces pour mon palais. Elles sont plus douces que le miel à la bouche, à ma bouche. Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. Voici la parole de Dieu. Prions. Oh Seigneur, merci de nous avoir donné ta parole. Merci de nous avoir donné ta loi. Seigneur, donne-nous un cœur comme celui de notre frère, ce psalmiste qui a écrit ce psaume il y a des milliers d'années. Seigneur, par celui-ci, montre-nous les merveilles de ta parole. Enseigne-nous, encourage-nous, reprends-nous pour que nous t'aimions en aimant ta parole, Seigneur. En désirant lui obéir, ce qui sera t'obéir, l'aimer, ce qui sera t'aimer. Bénis ta parole, ce message, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, l'idée principale qu'on ressort de ces 8 versets du psaume 119 est la suivante. La parole de Dieu est le meilleur guide qui soit tout au long de notre vie. Alors, permettez à la parole de Dieu d'être votre guide tout au long de votre vie. Ce passage nous livre deux choses importantes. Et la première section de ce passage nous explique pourquoi la parole de Dieu constitue notre meilleur guide tout au long de notre vie. Et la deuxième section, à partir du verset 101, nous dit comment faire de la parole de Dieu notre guide tout au long de notre vie. Et comme premier verset, qui est un petit peu une introduction avant d'arriver dans ces deux sections-là, il y a un de mes versets favoris de tout ce psaume-là, le verset 97, qui dit « Combien j'aime ta loi! Je la médite toute la journée, où elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Et l'expression originale utilisée, c'est comme un... je pense que c'est la Bible en français courant, ou c'est la Bible Le Sommeur qui a traduit ça par « Oh, comme j'aime ta loi! Oh, comme j'aime ta loi! » Tout le jour, je la médite, tellement je l'aime. Le poète commence par déclarer son amour pour la parole de Dieu. Et son amour est démontré par sa méditation. Il dit qu'il la médite toute la journée. On a parlé de la méditation la semaine passée. À quoi est-ce qu'on l'a comparé? Méditer la Bible. Je ne sais pas si vous en souvenez. À un ruminant. Oui, une vache qui mange, qui mâche, qui avale, que ça revient, qui remâche une deuxième fois, qui réavale, ça revient, qui remâche une troisième fois, comme mâcher de la gomme, pour en extirper toute la saveur. Le mot hébreu qui signifie méditer comporte justement l'idée de répétition ou de reprendre encore et encore. On pourrait aussi comparer la méditation biblique à l'idée de mariner la parole de Dieu, c'est-à-dire de s'y plonger, de lui permettre de s'infiltrer profondément dans notre cœur et dans notre vie. Moi aussi, je vais avoir cet amour pour la parole de Dieu que le psalmiste a, de dire « Oh, comme j'aime ta loi! » Elle est tout le jour ma méditation. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on devrait se joindre à notre frère psalmiste, poète, dans son amour, sa méditation de la parole de Dieu? Il nous donne trois raisons dans les versets 98 à 100. Pourquoi la parole de Dieu est le meilleur guide pour nous tout au long de notre vie? Alors, l'auteur met en opposition la parole de Dieu avec trois autres choix, trois autres endroits vers lesquels les gens se tournent en quête de conseils. Et c'est assez intéressant. Le verset 98 dit que la parole de Dieu est supérieure à nos ennemis. Voici ce qu'elle dit. « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Nos ennemis, c'est ceux qui nous sont hostiles, ceux qui nous attaquent, ceux qui sont contre nous. Peut-être qu'on se demanderait, bien, qui va se tourner vers ses ennemis pour avoir des conseils? Eh bien, en fait, on le fait plus souvent qu'on pense. Les gens qui vont se moquer de nous, les gens qui vont nous rabaisser, on va vouloir avoir tendance à les imiter. Même si ce n'est pas explicitement leur conseil, eh bien, on va vouloir faire comme eux. Ou bien les ennemis jouent les durs, puis ensuite on se dit « Très bien, c'est ainsi que nous allons jouer. » Mais la parole de Dieu nous rend plus sages que nos ennemis. Et le psalmiste dit « Car je les ai toujours avec moi. » Il en faisait toute sa journée sa méditation, alors il avait toujours la parole de Dieu dans son cœur, qui marinait dans son cœur. La deuxième comparaison, la parole de Dieu est bien meilleure que nos enseignants, que nos éducateurs. Verset 99 dit « Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. » Beaucoup de gens se tournent vers ceux qui sont instruits ou ceux qui ont de l'influence pour avoir des conseils ou pour avoir un exemple de vie à suivre. Pour savoir comment penser, on se réfère peut-être aux journalistes, aux gens qu'on entend aux nouvelles, à ceux qu'on lit, les éditorialistes. Ça peut être nos professeurs d'école et ça peut être nos parents qui nous ont éduqués, qui ont été probablement les modèles les plus importants dans notre vie. Ça peut être des gens dans l'Église ou des gens qui ont une influence spirituelle sur nous, qui nous ont enseigné la parole de Dieu. Ça peut être vos pasteurs. Mais le psalmiste a bien raison ici en disant qu'il est bien plus perspicace que tous ses maîtres car il médite les instructions de Dieu. Les enseignants humains sont faillibles, ils peuvent se tromper et la parole de Dieu, elle, nous donne une compréhension qui est inspirée, qui fait autorité. C'est pourquoi on devrait la méditer, comme le psalmiste. Alors, la parole de Dieu est supérieure à nos ennemis. Elle est supérieure à nos enseignants ou à ceux qui sont nos modèles. Et troisièmement, elle est supérieure à nos anciens. Au verset 100, il dit « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. » Alors ça, c'est quelque chose parce que dans la société juive de l'Ancien Testament, dans les sociétés traditionnelles, plus les gens sont vieux, plus on a du respect pour eux. Souvent, ce sont les premiers à parler lors d'un conseil de famille, lors d'un conseil de ville. C'est ceux qu'on écoute, ceux qui ont de l'expérience de vie, c'est ceux qui ont de la sagesse. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre culte de la jeunesse et de la nouveauté, on a beaucoup perdu ce respect et cette déférence, cette écoute de rechercher la sagesse auprès de nos aînés. Auprès de ceux qui connaissent peut-être pas aussi bien que nous comment faire fonctionner le GPS, mais qui ont plus d'expérience de vie que nous, qui ont fait plus d'erreurs que nous, et qui peuvent nous faire profiter des choses qu'ils ont apprises. Ma sœur aime dire qu'on apprend de nos erreurs, mais la sagesse, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Ou peut-être que c'est Raphaël qui disait ça. Mais j'aime bien cette idée-là, de ne pas juste dire « Ah, mais je vais me planter moi-même, je vais faire mes propres erreurs, puis là, j'apprendrai. » Non, la sagesse, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Alors, dans cette société-là, même qu'il y avait beaucoup de respect pour leurs aînés, quelque chose qu'on a besoin d'apprendre, nous, dans notre société, honorer ceux qui sont âgés. Proverbe 16, 31 dit « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. » Et dans Tite aussi, cette lettre que Paul a écrite à son protégé Tite, qu'on a eu la chance d'étudier ensemble il y a quelques semaines, pendant un mois et demi, Paul il disait, j'essaie de trouver le verset, bon, peut-être que ce n'est pas dans Tite, mais dans Timothée, mais de traiter les vieillards comme un père, les femmes âgées comme une mère, d'avoir un respect pour eux. Alors, dans ce contexte-là, le psalmiste ici nous dit que la parole de Dieu est supérieure à la sagesse de ses aînés. Il dit « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, Comment fait-il? Est-ce qu'il est plus vieux qu'eux? Non, parce qu'il respecte les décrets de Dieu. Ça, c'est la façon d'obtenir une intelligence supérieure. Oui, la parole de Dieu est un meilleur guide que le plus sage de nos aînés. C'est pourquoi nous devons lui obéir, comme le dit le verset 100. La parole de Dieu est supérieure à nos ennemis, elle est meilleure que nos enseignants, elle est supérieure à nos anciens, à nos aînés. Alors voilà pourquoi la parole est le meilleur guide qu'on puisse avoir toute la vie, et le psalmiste nous le montre. Ensuite, en deuxième section, on voit comment faire de la parole de Dieu notre guide tout au long de notre vie. On pourrait se dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement, permettre à la parole de Dieu de guider ma vie? Eh bien, le psalmiste nous le précise dans les quatre prochains versets, les versets 101 à 104. Il évoque quatre choses qu'il a faites pour permettre à la parole de Dieu de le guider. Et nous devons, prenons exemple de lui et faire ces quatre choses. Je vais les mentionner rapidement, ensuite on va les regarder. Tout d'abord, c'est résister à l'envie de nous éloigner de la parole de Dieu. Deuxièmement, demeurer sur le sentier que la parole de Dieu nous a montré. Troisièmement, rafraîchissez-vous avec la douceur de la parole de Dieu. Et dernièrement, remodelez vos affections pour être en harmonie avec la parole de Dieu. Donc, un verset à la fois, on va les regarder. Tout d'abord, résister à l'envie de nous éloigner de la parole de Dieu. L'auteur dit, « J'écarte mes pas de tout mauvais chemin afin de me conformer à ta parole. » L'auteur révèle une vérité fondamentale que nous devons connaître et que nous avons tous expérimenté. Nous sommes tous attirés vers les mauvais sentiers par nos propres désirs intérieurs. C'est un petit peu l'idée de... Il dit « j'écarte mes pas » et il choisit consciemment ses pas. Lorsqu'on n'est pas en train de choisir consciemment ses pas, ça nous amène un peu n'importe où. Et suivre nos pas, suivre nos émotions, c'est précisément beaucoup de ce que de gens font, de ce qu'on a à faire, on suit nos pieds simplement. Mais si on suit nos pieds, nos émotions, on va se retrouver sur un mauvais sentier. Le proverbe 16:23 dit « Le moyen qui semble acceptable à l'homme le conduit à la mort. » Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque nos émotions nous pressent vers un sentier contraire à la parole de Dieu? Fions-nous à la puissance du Saint-Esprit pour contrecarrer nos pieds et nos émotions. Et laissons l'Esprit de Dieu nous aider à dire les paroles de David, comme il le dit le prochain verset après notre passage d'aujourd'hui, qu'on a chanté souvent dans les dernières semaines. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, et je veux suivre la parole de Dieu. » Dans les dernières semaines, alors que je réfléchissais à cet engagement qu'on voulait prendre de lire la Bible à tous les jours, ensemble en Église, pendant 14 jours, dédiés 3 dimanches à comment la Bible est un livre extraordinaire, j'essayais de réfléchir aux raisons pour lesquelles on ne lit pas la Bible. On peut dire qu'on est trop occupé, mais c'est probablement pas vrai, parce qu'on a du temps pour toutes sortes d'autres choses. Alors, je la considère même pas comme une vraie raison. Je pense que probablement la première, c'est que nous aimons d'autres choses plus que la Bible. Deuxième idée, peut-être que nous n'avons pas vraiment confiance en la Bible. Ou troisièmement, nous croyons que nous ne croyons pas en avoir vraiment besoin. Oui, on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, on dit qu'elle est puissante, qu'elle est vraie, mais on ne le croit pas vraiment, parce que si on le croyait vraiment, ça ferait une différence dans notre vie. Et ça serait une priorité pour nous de passer du temps dans la parole. Ou bien peut-être, quatrièmement, qu'on la trouve plate, on la trouve ennuyante, difficile à comprendre, ou qu'elle semble avoir peu de connexion avec notre vie. Alors ça, c'est tous des embûches qui peuvent être sur notre chemin dans l'appel qu'on a à lire et méditer la parole de Dieu. Mais j'avais pas le portrait complet avec ces idées-là. Peut-être que vous avez d'autres idées aussi, mais il y a quelque chose auquel j'avais pas pensé. Puis, en lisant les méditations quotidiennes, notre livret de 14 méditations, il y a plus d'un auteur qui nous a fait remarquer une raison importante pour laquelle nous lisons la Bible moins que nous devrions. C'est la voici. Le diable ne nous veut pas dans la Bible. Le diable sait que la Bible est puissante, qu'elle est la vraie vérité, parole de Dieu. Le diable sème le mensonge. Il nous veut loin de la vérité. Il nous veut loin de la puissance pour transformer nos cœurs. Dans la méditation du jour numéro 10 de notre livret, Daryl Dash, qui est pasteur et implanteur d'église à Toronto, disait ceci: l'une des plus importantes stratégies de Satan consiste à faire en sorte que nous dévalorisions les Écritures. Il sait qu'une moindre importance des Écritures nous conduira à attacher une faible importance à Dieu. Alors, je répète cette dernière phrase, je l'ai trouvée très pénétrante. Satan sait qu'une moindre importance des Écritures nous conduira à attacher une faible importance à Dieu. Le diable se réjouit lorsque nous délaissons la Bible. L'idée qu'on peut avoir, ça ne va rien changer de lire ma Bible, c'est un mensonge que le diable aime que nous pensions. Il faut être prêt à contrecarrer ces mensonges-là qui sont dans nos cœurs, dire non, c'est pas vrai. Non, c'est un mensonge, ça. C'est pas vrai que ça ne va rien changer. Seigneur, aide-moi je veux mettre ta vérité dans ma tête, pas des mensonges comme ça. Alors, notre premier point ici, c'était de résister à l'envie de nous éloigner de la parole de Dieu. C'est si facile pour nous de la délaisser, qu'elle perde son importance. Refusons les mensonges qui nous viennent. Probablement alimentés par notre propre chair et dont le diable se réjouit. Allons dans la parole de Dieu. Le deuxième point, au verset 102, de comment est-ce qu'on peut faire de la parole de Dieu notre guide, c'est de demeurer sur le sentier que Dieu nous a montré. Verset 102 dit, « Je ne me détourne pas de tes sentences, car c'est toi qui me les as enseignées. » Le mot « se détourner », c'est s'éloigner, c'est changer de direction. Une fois qu'on est sur le sentier de la parole de Dieu, le psalmiste consciemment dit « Je ne me détourne pas de ce sentier-ci. » Des sentences de Dieu, c'est toi qui me les as enseignées. Ce que la Bible dit, c'est Dieu qui le dit. On l'a vu il y a 2 semaines que la Bible est inspirée de Dieu. Que c'est Dieu qui l'a soufflé. C'est son esprit qui l'a amené dans les têtes de ceux qui l'écrivaient, de sorte qu'il n'y a aucune erreur qui a été retranscrite, que chaque mot, même si les auteurs gardaient leur personnalité propre, le fruit de leur recherche, peut-être des ouvrages, des choses dont ils se servaient pour la rédiger, le Saint-Esprit agissait à travers eux pour s'assurer de nous transmettre une parole qui serait digne de confiance. Parce que si on ne peut pas faire confiance à la Bible, s'il en revient à vous et moi de choisir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est peut-être pas 100% vrai, moi, c'est l'argument le plus fort que j'ai dans mon cœur pour me dire que la Bible doit être vraie. Peut-être lorsqu'on voit on trouve la Bible difficile à comprendre, on voit des choses, on dit « j'ai de la misère à accepter ça, j'ai de la misère à voir Dieu comme ça ». Mais s'il en revient à nous de choisir qu'est-ce que Dieu a vraiment dit et qu'est-ce que Dieu n'a pas dit, on se place, nous, en juge au-dessus de la Bible. Et qui suis-je, moi, pour me placer en juge au-dessus de la Bible? Qui suis-je pour... puis là, la personne à côté va l'interpréter d'une autre façon, va dire « ah oui, ça c'est bon, ça c'est ben, peut-être à laisser de côté ». Puis l'autre personne, dans une autre société, « ah ouais, oh, oui, ça c'est bon, non, ça c'est à laisser de côté ». S'il en revient à la raison humaine, à notre opinion, frères et sœurs, chers amis, de choisir qu'est-ce qui est à prendre et à laisser de la Bible, alors on n'en a plus de parole de Dieu. Tout le monde, chacun dans sa société, chacun dans sa situation de vie, va prendre quelque chose et dire « ah non, ça je ne veux pas que ça s'applique à moi » ou « ça, je ne pense pas que Dieu a vraiment dit ça ». S'il en revient à nous de choisir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, tout s'écroule. L'édifice complet s'écroule. On ne peut plus avoir confiance en la parole de Dieu si nous sommes ses maîtres. Il faut laisser Dieu être le maître de sa parole et le croire sur parole, lui faire confiance que sa parole est vraie, qu'elle est digne de confiance et qu'elle est digne d'être étudiée, obéie, méditée toute la journée. Considérez votre lecture de la Bible comme votre séance de tutorat personnalisée avec Dieu. Ça coûte cher faire du tutorat. Je ne sais pas si vous avez déjà embauché un tuteur pour vous aider. Alors, mon grand frère, lui, il en a fait une business personnelle. Il faisait du tutorat, surtout pour les mathématiques, les sciences, et il était un très bon tuteur. J'en ai fait un peu, mais il pouvait charger très cher ses services de tutorat. Imaginez si Dieu nous chargeait pour ses services aux 30 minutes. Combien ça coûterait avoir Dieu juste pour moi qui m'aide à comprendre mes mathématiques que j'ai de la misère à comprendre? Embaucher le Dieu de l'univers, je ne pense pas que c'est un salaire qui est chiffrable. Je ne pense pas que les banques du monde seraient capables de l'embaucher pour une demi-heure. Mais le Seigneur, dans sa Bible, nous parle. Et lorsqu'on la lit, lorsqu'on la médite, c'est comme une séance de tutorat personnalisée avec le Seigneur, lui qui nous parle à travers elle. Faisons écho aux paroles de David dans le psaume 25, versets 4 à 5, un passage que vous connaissez possiblement, qu'on chante aussi. « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, je m'attends à toi chaque jour. » Troisième façon, comment on peut faire la Bible notre guide tout au long de notre vie, au verset 103, dit que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Rafraîchissons-nous de la douceur de la parole de Dieu. De nombreux versets dans ce psaume parlent comment, ça c'est un mot que je trouve magnifique, comment la parole de Dieu fait les délices du psalmiste. C'est un plaisir de manger ça, c'est délicieux d'être dans la parole pour le psalmiste, d'entendre la voix de Dieu, de la suivre. Et il mentionne ici, « Tes paroles sont douces pour mon palais, plus douces que le miel à ma bouche. » Et on sait que le miel, c'était quelque chose de luxe, c'était le meilleur produit sucrant. C'est, lorsque le Seigneur parlait de la terre promise, il disait que c'était un pays où coulait le lait et le miel, deux choses riches, deux choses symboles de luxe, des choses symboles de richesse et des choses délicieuses. Bien, le psalmiste dit que la parole de Dieu est plus douce que le miel à sa bouche. Quelle belle image! C'était un vrai régal pour lui. Eh bien, certains d'entre nous, on a besoin de développer notre goût pour la parole de Dieu. Peut-être que nos papilles gustatives sont dépendantes des sucres raffinés, des choses qui goûtent très, très bon en bouche, mais qui ne sont pas nourrissantes. Que ce soit les nouvelles, les téléséries, les vidéos sur Internet, les réseaux sociaux, ça c'est facile, passer beaucoup de temps là-dedans, lire les journaux, lire des romans. Nos papilles gustatives un peu spirituelles trouvent ça facile d'écouter ces choses-là, de lire ces choses-là. Mais la bonne nourriture santé, c'est un goût qui se développe. Apprendre à aimer des choses qui sont bonnes pour nous, c'est un goût qui se développe. Et apprendre à aimer la parole de Dieu, c'est un goût qui se développe. Alors qu'on en mange, et alors qu'on demande au Seigneur de nous aider à l'aimer, de nous parler à travers elle. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, prenons un passage, savourons-le tout au long de la journée. Gravons-le dans notre mémoire. Laissons-le reposer en le savourant pendant toute la journée. Et l'enseignement le plus savoureux, le plus magnifique de toute la Bible, c'est celui que Dieu a pourvu à un salut pour nous. Que Dieu a pourvu un moyen pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Pour que la culpabilité que chacun d'entre nous portons à cause du mal qu'on s'est fait envers soi-même, envers les autres, et peut-être qu'on ne réalise pas envers Dieu. Dieu a pourvu un moyen pour que notre culpabilité soit enlevée, pour que nos cœurs soient lavés. Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, pour être le salut, pour être le sauveur de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants. Le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, est mort sur la croix il y a bientôt 2000 ans. À notre place, Dieu a versé la condamnation que nous méritions sur lui. Et Jésus est mort à notre place, et ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité pour prouver qu'il avait reçu ce sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Et Jésus nous appelle, Jésus vous appelle. Il appelle votre famille, il appelle nos voisins, il appelle nos collègues à venir à lui, à trouver le repos pour nos âmes, à trouver le pardon pour nos péchés, à trouver l'espérance de la vie éternelle. Ça, c'est le cœur du message biblique, dont on ne doit jamais perdre de vue. Et si vous lisez la Bible, que vous la trouvez un peu ardue, que vous êtes dans des passages où ça, c'est loin de votre tête, voyez comment vous pouvez faire le lien avec le cœur de la Bible. C'est quelque chose qui est important pour nous dans cette Église, de ce que dans tous les messages, dans les études bibliques, que l'Évangile, l'idée de la mort et la résurrection de Jésus à notre place, ce soit au cœur, que ça soit là. Parce que c'est ça la puissance de Dieu pour transformer nos cœurs. De savoir que Dieu nous accepte en sa présence à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Si nous lui abandonnons notre vie, si nous nous détournons de nos péchés, si nous nous attachons à Jésus pour le suivre. Le Seigneur nous invite, il t'invite, il invite ceux que tu aimes aussi à venir à lui. Et la raison pour laquelle on peut savoir cette histoire-là, la connaître, c'est parce que Dieu nous la livre dans la Bible. Alors, si vous êtes dans l'Ancien Testament, peut-être que vous trouvez ça un peu ardu, lire dans votre Bible, bien faites une pause, retournez dans le Nouveau, retournez dans quelque chose où peut-être l'Évangile est un peu plus clair. Et à même que vous lisez l'Ancien Testament, essayez de voir comment est-ce que ces choses-là sont accomplies en Jésus-Christ, qu'il est venu être l'accomplissement de ces promesses, de ces images qui sont à venir. Dernièrement, dernier point, remodelons nos affections pour être en harmonie avec la parole de Dieu. Dernier verset de notre passage, verset 104. Le psalmiste dit, « Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. » Le psalmiste ici, plusieurs pensent qu'il s'agit de David. C'est fort possible que ce soit David, le roi David. Ça ne nous est pas indiqué au début du verset. Ah, c'est possible que ça soit cité dans le Nouveau Testament comme étant « David a dit ». Alors, j'aurais aimé le vérifier avant pour pouvoir vous le confirmer, mais vous pouvez vérifier vous-même aussi. Mais alors, notre psalmiste ici, possiblement David, dit « Grâce au décret de Dieu, il devient intelligent, c'est pourquoi il déteste toute voie de mensonge. Il a laissé la parole de Dieu transformer ses désirs, transformer ce qu'il aime et ce qu'il déteste. » Vous savez, détester, c'est pas péché en soi. Dieu déteste le mal et ça fait partie de pourquoi il est si magnifique. Parce qu'il est un Dieu de justice, il est un Dieu qui ne veut pas que l'innocent souffre. Et ça, c'est quelque chose qui est mis dans nos cœurs, chacun d'entre nous. Alors, de détester le mal, de détester le mensonge, de détester la violence, la haine, détester la haine, intéressant, hein? Ça, c'est le fruit de laisser la parole de Dieu remodeler nos affections et d'apprendre à aimer les meilleures choses. Apprendre à voir que la parole de Dieu, elle est plus douce que le miel à notre bouche. En conclusion, la parole de Dieu, c'est le meilleur guide qui soit tout au long de notre vie. Alors, chers amis, permettons à la parole de Dieu d'être notre guide tout au long de notre vie. Si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, que vous aimez Dieu, je vous invite, je m'invite ensemble, prenons l'engagement de consacrer du temps à lire et à méditer la parole de Dieu chaque jour. Le psalmiste, il dit « Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. » Dans le psaume 1 qu'on a vu la semaine passée, il dit « Heureux l'homme, heureux la femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Alors, il faut passer du temps dans la parole de Dieu si on veut rencontrer Dieu. Prenons l'engagement. Si vous avez commencé le livret de 14 méditations, bien, je vous invite à continuer, à le finir cette semaine. Et si vous l'avez déjà fini, quand vous l'aurez fini, bien continuons, partons sur cette lancée-là. Continuons sur cette bonne lancée, continuons à lutter pour lire notre Bible, pour y rencontrer Dieu. Pas comme une façon de checker notre liste, ou une façon de taire la culpabilité qui nous assaille lorsqu'on ne le fait pas. Ben, si le Seigneur se sert de ça pour le rencontrer, ben, tant mieux, mais allez plus loin que ça. Allez rencontrer Dieu dans sa parole. Et si vous êtes en recherche spirituelle, que vous êtes en train d'enquêter la foi chrétienne, que vous vous posez des questions, eh bien, laissez-moi vous dire que la meilleure place pour rencontrer Dieu, pour apprendre qui il est et comment le suivre, c'est dans la Bible, c'est dans sa parole. Si vous n'avez jamais vraiment lu la Bible, je vous encourage à commencer par les Évangiles, qui racontent la vie de Jésus, son ministère, ce qu'il a enseigné, les miracles qu'il a accomplis, et ultimement ce qu'il a accompli à la croix pour nous, et pourquoi c'est si important. Je vous encourage aussi, si vous êtes en train d'enquêter la foi chrétienne, à demander à un chrétien que vous connaissez, quelqu'un que vous savez qui connaît la Bible mieux que vous, de vous accompagner dans votre lecture. Vous pouvez vous rencontrer une fois de temps en temps pour poser vos questions ou pour discuter de ce que vous avez lu ensemble. Alors finalement, il n'y a rien qui transforme les gens comme la lecture et la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Et nous voulons être transformés par Dieu. Mais ça va commencer par notre relation avec lui, par passer du temps régulier dans sa parole. Si nous voulons aimer Dieu, lui obéir, être des enfants fidèles, être une lumière dans nos différents milieux et dans notre quartier, eh bien, ça va commencer avec notre relation avec Dieu. Ça va commencer par du temps assidu dans sa parole, par chercher à le rencontrer. Passer du temps dans la parole, passer du temps dans la prière aussi. Nous avons, le Seigneur nous a donné, et vous pouvez acheter pour 10 $, le plus grand guide de ce monde. Le GPS le plus puissant pour nous diriger, non seulement en auto, mais pour les petites et les grandes questions de la vie. Pour la routine, pour les grandes décisions. Est-ce qu'on le garde éteint? Ou est-ce qu'on le met sur le mode silencieux? Dieu t'appelle. Ouvre sa parole et écoute-le. Dieu nous a donné sa parole. Sera-t-elle ton guide? Amen.